Let's say Saturday, that's 10 or Saturday, for me. In the day you leave, come on 2. The leave se divise en 5 sections. Et j'ai fait les deux couleurs pour représenter deux éléments dans ce livre. Pour l'attacher ici, c'est tout. Très bien. Oui, le bleu représente le négatif, l'orange le positif, parce que le livre varie de ton, c'est-à-dire change de ton graduellement, commençant complètement négatif avec des choses à condamner et devenant de plus en plus positif, comme vous remarquez, je commence par rejeter les convoitises charnelles, des choses qui doivent avoir aucune place dans la vie chrétienne. Et le bonhomme est après repoussé comme ça, dit non, j'en veux pas. Ensuite, céder les droits légitimes, c'est un peu plus positif, sont des aspects de la vie qui ont une place légitime, mais il faut les céder. Alors, il tient les mains comme ça pour dire prends-les, Seigneur, fais ce que tu veux avec. Il cède ses droits légitimes à la volonté du Seigneur. Ensuite, respecter les ordonnances sacrées, des ordonnances qui font partie de notre culte, qui sont nécessaires, mais qu'il faut les observer d'une manière avec respect. C'est pour ça qu'on voit le bonhomme à genoux. Puis rechercher les bénédictions spirituelles qu'on doit essayer de chercher à en avoir autant qu'on peut avoir. Alors il a les mains tendues comme ça pour recevoir les bénédictions que Dieu fait pleuvoir sur lui. Mais si je laisse un petit peu de bleu encore dans les bénédictions spirituelles à rechercher, ce n'est pas qu'il y ait de quoi négatif, mais simplement qu'il y a quelque chose d'encore plus élevé et plus noble qui est assumer les responsabilités chrétiennes, prendre des responsabilités chez nous, comme le bonhomme qui porte un fardeau. Alors, c'est pas toujours chercher à recevoir, mais c'est donner aussi et servir. Et sur l'autre dessin, qui a un peu l'apparence d'une Bible ouverte, je mets les sous-divisions de la première section. Quand on va avancer dans la deuxième partie du livre, je vais descendre la flèche verte pour indiquer dans quelle section on est rendu. Et on aura de nouveaux titres sur le dessin de la Bible ouverte. Alors ce soir, nous voulons méditer sur la première des convoitises charnelles à rejeter, qui est la polarisation. Et pour cela, nous tournerons au chapitre 1 et le verset 10. 1 Corinthiens 1, verset 10. Et on va couvrir le livre assez vite, on ne pourra pas tout lire le livre de 1 Corinthiens, mais nous essayons de prendre des passages clés qui nous aident à voir le plan du livre. 1 Corinthiens 1, 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans le même esprit et dans le même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. C'est jusque-là que nous lirons. Ensuite, nous prendrons un peu dans le chapitre 3 aussi. Et ce passage que nous venons de lire est souvent cité pour condamner le dénominationalisme, et je suis bien d'accord que le dénominationalisme est une transgression en principe de ce passage, mais je crois aussi que le mal précis que l'apôtre Paul attaque ici n'est pas le dénominationalisme, mais plutôt la polarisation, parce que c'est quelque chose qui arrive strictement en dedans de l'Église de Corinthe. Alors, les dénominations sont un genre de polarisation aussi qui arrive dans l'Église universelle. Mais ce que Paul dit précisément, c'est la polarisation, c'est-à-dire des divisions en dedans d'une certaine assemblée. Et c'est un mal que j'ai vu arriver dans des églises, des assemblées que j'ai fréquentées dans le passé. C'est une chose qui arrive surtout s'il y a deux anciens et que l'un des deux a l'esprit plus large que l'autre. Et alors tous ceux qui ont l'esprit large vont suivre celui qui a l'esprit large, tandis que ceux qui veulent retenir leurs principes suivent celui qui tient plutôt au bon principe. Ou je l'ai vu dans des églises dénominationales aussi, où il y avait deux hommes qui étaient des leaders naturels et qui avaient des points de vue contraires l'un à l'autre. Et alors les gens dans l'église voyaient un de ces leaders naturels comme leur porte-parole. Et c'est un mal qui détruit très vite l'efficacité du témoignage d'une assemblée, parce que le monde détecte quand on le divise à cause de la polarisation. Donc, quel est le mal produit par la polarisation qui est une convoitise charnelle qu'il faut rejeter, qui ne doit avoir aucune place dans la vie d'un chrétien? D'abord, elle rompt l'unité, détruit l'unité de l'assemblée en créant comme deux camps. Et elle fait ça par le moyen de la discorde. En réalité, la polarisation est toujours comme un cercle vicieux. Elle est causée quand les chrétiens de différents points de vue se groupent ensemble. Et alors, ils recherchent un leader qui va être leur porte-parole. Et puis, une fois qu'ils ont trouvé une porte-parole, ce porte-parole les encourage à continuer dans le voie où ils sont. Et chaque camp s'affirme dans le point de vue qu'il tient. Et ça devient un cercle vicieux qui tient en ronde. Et l'esprit de polarisation se rend de pire en pire. Et qu'est-ce qui sera le remède? Eh bien, si tous visent à glorifier Christ, on n'élèvera pas un leader naturel en abaissant un autre. Mais ceux qui disaient « Moi, je suis de Christ » dans ce passage n'étaient pas ceux qui avaient le remède, parce qu'ils mettaient Christ comme un autre porte-parole en contraste avec les trois premiers. Tandis que s'ils avaient dit « Nous sommes tous de Christ », ça aurait été le remède. Mais disant « Vous êtes de Paul ou d'Apollos ou de Cephas, et moi, je suis de Christ en contraste avec vous », eh bien, il crée simplement une autre division. L'unité se trouve en amenant tous à Christ. C'est comme les rayons d'une roue dans lesquels plus on vient vers le centre, plus on approche l'un de l'autre aussi. Et Christ est le centre de la roue. Alors, plus nous nous approchons de Christ, plus nous nous approchons les uns des autres aussi. Et la polarisation rompt l'unité en déplaçant alors la gloire comme notre but, parce qu'elle élève un homme et abaisse un autre. Si tous cherchaient à glorifier Christ, la discorde serait évitée, parce que d'abord, on se souviendrait de l'œuvre de Christ pour nous, selon le verset 13, où Paul dit, Christ, Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Si on se souvient que c'est Christ qui a été crucifié pour nous, nous voudrons tellement plus l'unité en Christ, et même le souvenir de ce qu'il a fait pour nous nous fera fondre d'amour pour lui. Et quand le cœur fond d'amour pour le Christ, on n'est plus capable de voir des disputes parmi les chrétiens. Et la division en différents camps. Et quand nous avons vraiment vu la croix de Christ, quand nous avons compris ce que Christ a fait pour nous, nous chercherons à développer un caractère comme le caractère de Christ. Et avec un caractère de Christ, la division, la discorde devient impossible. Il est vrai qu'il y a des divisions qui sont nécessaires. Oui, les divisions qui sont nécessaires afin de suivre Christ. Il y a un élément parmi nous qui veut s'éloigner des principes de la parole de Dieu. Alors il faut se diviser d'avec, se séparer d'avec pour suivre Christ. Mais toute autre division et tout esprit de discorde est rendu impossible quand on recherche vraiment avoir le caractère de Christ, ce qui est nécessaire pour le suivre. Donc, la polarisation constitue un rompant d'unité dans une assemblée. La discorde est un mal aussi parce qu'elle retarde la croissance dans la grâce. Elle rompt l'unité, ensuite elle retarde la croissance. Nous verrons cela au chapitre 3, verset 1 à 4. Nous lirons ces quatre versets. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas le supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Alors, là, une autre référence à ce même phénomène de polarisation qui retarde la croissance spirituelle. Parce que l'élément essentiel de la croissance, c'est la croix de Christ. Et avoir la croix de Christ dans la vie veut dire que le moi devient crucifié. C'est à cela que le cantique que nous avons chanté faisait référence, disant « Je veux mourir avec toi » de la mort sur la croix. Et comme j'ai expliqué, le chrétien est mort avec Christ au moment de sa conversion, mais le principe de la croix doit être renouvelé tous les jours parce qu'il doit prendre sa croix chaque jour et suivre le Christ. Et c'est là l'essentiel de la croissance. Mais tant que la polarisation existait parmi les chrétiens, Paul disait, c'est évident que vous n'avez pas l'esprit de la croix agissant en vous, parce que la polarisation est causée par exactement le contraire de la crucifixion du moi. Nous pouvons faire une comparaison avec la nourriture spirituelle en disant que bien, il y a beaucoup d'attention donnée aujourd'hui à l'importance de l'alimentation dans la santé. Et une découverte de notre temps a été que pour assimiler les vitamines qu'il nous faut pour être en santé, il faut suffisamment de vitamine B. La vitamine B aide à assimiler les autres vitamines. Et par exemple, si une personne qui est portée vers l'anémie doit prendre du fer pour se fortifier. Souvent, le fer que cette personne va prendre va passer tout droit et le corps ne va pas l'assimiler. Mais si la personne prend la vitamine B, ça va lui permettre d'assimiler le fer aussi. Ou il y a bien d'autres nutriments qui peuvent passer tout droit au moins d'avoir la vitamine B pour nous permettre de les assimiler. Et le principe de la croix est notre vitamine B spirituelle. Parce que toute autre nutrition spirituelle peut passer tout droit sans nous faire aucun bien si nous n'avons pas appris la crucifixion du moi dans la vie. Mais c'est la crucifixion du moi qui va permettre que tout autre enseignement spirituel puisse être assimilé et contribuer à notre croissance dans la grâce. Et pour savoir quel effet cela aura sur nous d'avoir compris la crucifixion du moi, bien, considérons qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va faire si nous vivons non plus pour nous-mêmes, mais premièrement pour Christ et ensuite pour les autres. J'ai fait une liste partielle de Characteristics of our progeria, si nous avons vraiment saisi le principe de la croix dans ma vie, et vous pourrez ajouter à cette liste en vous posant la même question, quel effet est-ce que ça aura sur moi si le moi est crucifié et n'existe plus à mes yeux et je vis entièrement pour Christ et pour les autres. Alors voici la liste de caractéristiques que j'ai sorties. Celui qui laisse la croix agir dans sa vie, il pardonne promptement à celui qui lui fait mal. Parce qu'il ne pense pas à lui-même, il pense aux autres, alors il leur pardonne. Il est patient et il supporte des injustices envers lui. Il estime les autres comme étant au-dessus de lui, les autres plus importants que lui. Il est doux envers les autres et sévère envers lui-même. Il n'insiste pas sur ses droits à lui. Il est prêt à sacrifier ses droits, ce qui sera un droit normal, pour le bien des autres. Il obéit à Dieu même si ça lui coûte cher. S'il perd des amis en conséquence, par exemple, ou s'il n'est pas populaire. Il est dévoué, il se rend le serviteur de tous. Il reste calme dans les crises et il ne devient pas frustré. Il a de bonne humeur, même quand il est fatigué ou souffrant, et il ne fait pas souffrir les autres à cause de ses souffrances. Il est bon collaborateur et serviable. Il est mort à l'opinion publique. Il ne va pas être guidé par ce que tout le monde pense de lui. Il ne possède pas une fausse humilité qui empêche de servir ou de prendre position. Autrement dit, il ne fait pas comme Moïse, quand Dieu lui a dit d'aller devant Pharaon pour demander qu'Israël sorte de l'Égypte. Et Moïse dit, oh, mais qui suis-je pour aller devant Pharaon? C'est une fausse humilité qui l'empêchait de servir. Celui qui laisse la croix agir dans sa vie n'aura pas cette fausse humilité. Et il est généreux matériellement. Alors voilà une liste partielle de qu'est-ce que la croix va faire dans la vie de celui qui la laisse agir en lui, la crucifixion du moi. Et voilà le nutriment spirituel qui est nécessaire pour assimiler tout autre ingrédient, parce que Paul dit, puisque c'est évident que la croix n'agit pas en vous, vous êtes encore des enfants, des bébés spirituels. Et pourtant, les Corinthiens ont bien pu entendre beaucoup d'autres sujets enseignés, mais tout autre enseignement qu'ils recevaient ne leur faisait aucun bien pour les faire croire dans la grâce, puisqu'ils n'avaient pas accepté l'œuvre de la croix. Alors pourquoi Paul dit-il que les Corinthiens n'ont pas reçu l'œuvre de la croix? Et au chapitre 2, verset 2, il a dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi disait-il que les Corinthiens, évidemment, n'avaient pas accepté l'œuvre de la croix, puisqu'il y avait de la polarisation parmi eux? Bien, cela est évident dans ce qui cause la polarisation. Et une chose qui le cause, c'est de s'attacher à certains styles de messager ou certaines personnalités. Et admettons-le, les différents prédicateurs, les différents serviteurs de Dieu ont leur façon de nous annoncer la parole de Dieu ou d'œuvrer. Chacun a son style et chacun a même son genre d'enseignement. Il y en a au cœur de qui Dieu a mis certains sujets plus que d'autres. Et il y en a qui se concentrent plus sur la doctrine, d'autres qui se concentrent plus sur le côté pratique. Et je crois que cela est justement une raison pour laquelle Dieu ne veut pas le ministère d'un seul homme, pour qu'on ait un régime spirituel déséquilibré. Et pour cela qu'à la fin du chapitre 3, il dit « Car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Et admettons-le aussi, nous sommes tous portés à voir nos goûts au sujet du messager de Dieu ou le serviteur de Dieu. Et nous sommes naturellement portés à préférer un style à un autre. Mais nous devons au contraire nous discipliner et prendre à cœur ce que chacun dit. Mais si chacun préfère son style et il est porté à écouter celui qui répond à son goût, ça cause la polarisation, parce qu'il y a un camp qui préfère tel style et un autre camp qui préfère un autre style, et ça cause la division en deux camps, ce qui est néfaste pour le témoignage de l'Assemblée. Et il y a justement, si on s'attachait à Christ, on n'élèverait pas celui qui a un style en abaissant celui qui a un autre style. Et une autre cause de la polarisation, c'est l'indisposition d'accepter certains enseignements de la parole de Dieu et de faire le tour des prédicateurs et des chrétiens jusqu'à ce qu'on trouve celui qui va nous dire ce qu'on veut entendre. Par exemple, supposons qu'il y a un chrétien ou une personne qui a fait une confession de foi et qui était divorcé avant dans le passé. Ceux qui l'amènent à confesser Christ lui disent, d'après la Bible, tu es encore attaché à ton ancien conjoint tant que cette personne vit, et tu ne peux pas te remarier tant que ton ancien conjoint sera vivant. Mais ça tente bien gros à cette personne de se remarier. Alors il fait le tour des chrétiens et des prédicateurs en leur demandant, qu'est-ce que vous pensez de mon cas? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui dit, oh, d'après mon point de vue, tu pourras te remarier. Puis dit, bon, c'est toi que je veux suivre. Oh, il y a une femme qui vient au Seigneur. Et au moment de sa conversion, elle a les cheveux très courts. Et alors les chrétiens l'instruisent en disant, tu dois les laisser pousser. Et ça lui tente pas. Elle pense que c'est trop de troubles de soigner de longs cheveux. Alors elle fait le tour du prédicateur demandant à chacun, qu'est-ce que vous pensez de mon cas? Jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un qui dit que 1 Corinthiens 11 a été écrit à cause des coutumes de l'époque. Bon, celui que je veux suivre. Oh, il y a un amateur de musique rock qui fait une confession de foi. Et les chrétiens lui disent, bien, la sorte de divertissement que t'aimais avant est un produit du monde qui est ennemi de Dieu. Il faut que tu laisses ça. Il faut que tu laisses le Seigneur changer tes goûts. Mais ça ne lui tente pas. Il n'est pas désintoxiqué de cette musique mondaine. Alors il fait le tour des chrétiens en demandant à chacun, qu'est-ce que vous pensez de la musique rock? Jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui dit, oh, mais il y a du rock chrétien qui est correct, les paroles sont correctes. Il leur dit, bon, celui que je veux suivre. Et c'est cette façon d'agir qui cause souvent la polarisation aussi. Mais qu'est-ce que cette attitude manifeste? Eh bien, ceux qui font le tour d'eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un qui leur dise ce qu'ils veulent entendre, ils ne manifestent pas une soumission à la parole de Dieu. Ils ont leur idée fixe de ce qu'ils veulent croire et ils cherchent à plier la parole de Dieu pour appuyer ce qu'ils veulent croire et ils cherchent un homme aussi qui va les aider à plier la parole de Dieu selon leur désir. Leur moi n'est pas crucifié. Parce que si le moi dans notre vie est crucifié, on va se soumettre à qu'est-ce que Dieu dit et il faut que nos goûts se plient et que nous apprenions de nouveaux goûts selon les instructions de la parole de Dieu. Donc, la polarisation est causée par exactement le contraire de l'œuvre de la croix et c'est pour cela qu'elle retarde la croissance dans la grâce. Elle nous empêche de voir la vitamine spirituelle qui nous permettra d'assimiler tout autre enseignement spirituel. La polarisation est néfaste parce qu'elle rompt l'unité, parce qu'elle retarde la croissance et parce qu'elle ruine le service chrétien. Elle ruine notre service en déplaçant nos priorités parce que Paul continue dans le chapitre 3 à dire, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Alors, si tout ce qu'on fait, c'est planter, on peut aussi bien planter des graines de sable que des graines de semences, et ça va donner le même résultat si tout ce qu'on fait, c'est planter. Ou on peut arroser, et s'il n'y a pas de croissance, bien, ça pourrait aussi bien être des graines de sable. La seule chose qui montre qu'il y a de la vie présente, c'est la croissance. Et c'est Dieu qui fait cette seule chose qui montre qu'il y a de la vie. Ce que l'homme fait sans l'œuvre de Dieu ne montre pas qu'il y a une vie présente. Donc, si on s'attache à des hommes, des serviteurs de Dieu, mais humains, on s'attache à ce qui n'est pas l'essentiel, à ce qui ne montre pas la présence d'une vie. Donc, on a les priorités déplacées. Ou bien, ce sont les hommes qui peuvent bâtir la structure sur un fondement, mais le seul fondement qui peut être posé, c'est le Seigneur Jésus-Christ, d'après les versets 11 et 12. Les serviteurs de Dieu bâtissent sur ce fondement, mais sans le fondement, même la meilleure structure ne pourra pas tenir debout. Donc, si nous attachons aux serviteurs de Dieu qui bâtissent sur le fondement, nous déplaçons nos priorités et nous avons une structure sans fondement qui ne pourra pas tenir. Et en conséquence de déplacer nos priorités, nous allons produire une façade sans réalité, ou ce que Francis Schaeffer appelle la forme sans contenu. Nous pourrons avoir une belle structure, ce qui a l'air d'une belle bâtisse, mais qui n'a pas de fondement, alors se prendre rien pour le faire tout tomber à l'eau. Et cette façade sans réalité ne supportera pas l'épreuve au jour du jugement, parce qu'elle est sans vraie valeur. Et elle ne plaît pas à Dieu qui va tester la vraie valeur spirituelle. Tout ce que nous pourrons faire avec les priorités déplacées ainsi, c'est de produire une bonne impression terrestre. Mais cette bonne impression que nous produirons va être aussi passagère que le monde présent. Tandis que le but de tout service chrétien devrait être de bâtir une œuvre éternelle. Et si nous produisons quelque chose qui va être aussi passager que le monde présent, bien, nous avons complètement détruit notre but dans le service chrétien. Donc, la polarisation ruine le service chrétien. Et il est donc évident que la polarisation est très néfaste pour le témoignage de l'Assemblée, mais il y a une manière de la tuer dans l'œuf, et qui est de nous concentrer sur Christ crucifié, parce que les chrétiens qui ont vraiment saisi l'œuvre de la croix et qui laissent la crucifixion agir dans leur vie, ils sont incapables d'être coupables de la polarisation.